Vous écoutez « On lit pour vous ».
Le Botox au-delà des rides. Un texte de Catherine Anfield, paru le 2 novembre 2025 dans la presse. Largement connue pour l'atténuation des rides, la toxine botulique, connue sous le nom de marque Botox, cache un potentiel bien plus vaste. Zoom sur les problèmes de santé que le Botox peut soulager. En 1895, en Belgique, alors qu'on célèbre les funérailles d'un président de fanfare, 34 convives tombent malades après avoir mangé du jambon fumé avarié. Et ils sont en bien piteux état. Chute des paupières, difficulté à avaler, paralysie progressive. 3 d'entre eux en meurent, incapables de respirer. Leurs muscles respiratoires sont carrément paralysés. Ce drame, aussi funeste soit-il, a permis une avancée scientifique importante. Le professeur Emil van Hermenegem a réussi à identifier la source du mal, la bactérie Clostridium botulinum, qui produit une toxine puissante. Les scientifiques découvriront plus tard que cette toxique bloque la communication nerveuse. Bref, elle empêche les nerfs de donner l'ordre aux muscles de se contracter. Si elle gagne en popularité en esthétique, la toxine botulique est aussi de plus en plus utilisée à des fins thérapeutiques, selon les données de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Le nombre de services dans les pharmacies communautaires, nouvelles ordonnances et renouvellements, est passé de 10 000 en 2015 à 25 000 en 2024. En 2015, seule la marque Botox était couverte. Mais depuis 2017 et 2018, Xeomine et Dysport le sont également. Ces données concernent les personnes admissibles au régime public et excluent les ordonnances dans les pharmacies à l'intérieur des hôpitaux. Les yeux. À la fin des années 1970, l'ophtalmologiste américain Alan Scott trouve une première utilité à la toxine botulique, hormis le fait d'empoisonner de pauvres Belges. Traiter le strabisme, un défaut d'alignement des yeux. En injectant la solution dans le muscle le plus fort, le regard se réalignait. Et ça, c'était avant que le Botox soit utilisé en esthétique, fait remarquer le docteur Christian El Haddad, oculoplasticien et professeur adjoint en ophtalmologie à l'Université McGill. La toxine botulique est encore couramment utilisée en ophtalmologie. Santé Canada l'autorise de manière spécifique pour traiter 2 troubles neurologiques, le blépharospasme, clignement incontrôlé de l'œil, et le spasme hémifacial, un trouble rare. Le docteur Christian El Haddad se sert aussi du Botox pour fermer temporairement la paupière de certains patients. Il donne l'exemple d'un patient qui ne ressent pas la douleur au niveau de la cornée et ne reçoit donc pas le signal pour cligner de l'œil. Ou encore, un patient qui songe à faire fermer un œil non-voyant et douloureux de façon permanente. Avec le Botox, on peut avoir une démonstration temporaire, résume-t-il. Il lui arrive aussi de devoir fermer les paupières de patients aux soins intensifs, dans un état végétatif. Le Botox permet aussi de corriger un défaut de roulement de la paupière vers l'intérieur et même de diminuer les larmes en injectant les glandes lacrymales. Le docteur Haddad peut même réduire l'ouverture de l'œil d'1 ou 2 mm chez un patient aux yeux très secs. Un travail de haute précision. La beauté de la chose, c'est que si on fait une erreur, ça revient à la normale après 3 mois, souligne-t-il. L'effet de la toxine botulique s'estompe avec le temps. La tête. Dans les années 1980, on a observé que les femmes qui faisaient du Botox esthétique avaient un effet secondaire hautement intéressant, leurs migraines s'amélioraient. Depuis, les neurologues utilisent la toxine botulique pour prévenir la migraine toxique, des maux de tête au moins 15 jours par mois, dont au moins 8 migraines. On a identifié 7 zones qu'on pouvait injecter. Le front, les 2 tempes, les 2 régions occipitales, à l'arrière du crâne, et les 2 trapèzes, explique la docteure Heather Pym, neurologue spécialisée en médecine des céphalées au CHUM et professeure adjointe à l'Université de Montréal. Le traitement, qui comprend entre 155 et 195 unités, doit être refait toutes les 12 semaines environ. À noter, il est couvert uniquement lorsque les médicaments préventifs n'ont pas donné les résultats escomptés. Les anti-CGRP, une nouvelle génération de médicaments contre la migraine, ont en quelque sorte relégué le Botox au second plan, indique la docteure Pim. C'est donc plutôt rare de nos jours qu'on se rende au Botox, dit-elle. Le Botox demeure néanmoins un très bon traitement en migraine chronique, dit-elle. Après 3 traitements, 70 % des patients montrent une amélioration d'au moins 50 % de leur migraine. La bouche. Du côté de la santé buccale, maintenant, la toxine botulique permet de soulager le bruxisme, le grincement involontaire des dents, souvent pendant le sommeil. Les dents s'usent et des douleurs peuvent se développer. On va injecter le neuromodulateur, la toxine botulique, dans le muscle masséter pour le rendre moins actif, résume Liliane Malzewski, présidente de l'Ordre des dentistes du Québec. En esthétique, l'injection des masséters a une autre fonction, celle d'affiner le visage. Sera-t-il difficile par la suite de mastiquer? Il faudra peut-être travailler un peu plus fort pour mâcher un steak très fibreux, mais d'autres muscles contribuent à la mastication et ils pourront compenser en partie, indique Liliane Malzewski. Ces injections soulagent beaucoup les patients, mais il faut les refaire tous les 3 ou 4 mois, et c'est plutôt cher, plus de 1 000 $, souligne Liliane Malzewski. En général, elles ne sont pas couvertes par les assurances. Le bruxisme peut être causé par divers facteurs, comme le stress et la prise de certains médicaments. D'où l'importance, selon Liliane Malzewski, de considérer le patient de façon holistique. Depuis le mois de mars 2025, l'Ordre des dentistes du Québec autorise ses membres dûment formés à faire des injections de neuromodulateurs et même d'agents de comblement pour redéfinir les lèvres, par exemple. La toxine botulique peut adoucir le sourire d'une personne qui montre beaucoup de gencives en souriant, donne en exemple Liliane Malzewski. D'autres utilisations. L'utilisation de la toxine botulique ne s'arrête pas là. La neurologue Heather Pim du CHUM pense par exemple aux personnes qui se remettent d'un accident vasculaire cérébral et qui ont de la difficulté à déplier leurs membres. Spasticité. Des injections de Botox peuvent rendre le mouvement plus fluide, dit-elle. La toxine botulique est aussi utilisée pour traiter la dystonie cervicale, une forme rare de torticolis qui s'exprime par des contractions involontaires du cou et une posture anormale de la tête. Chez les personnes qui suent des aisselles de façon pathologique et chez qui les préparations topiques sont inefficaces, on peut injecter du Botox pour bloquer le signal de produire de la sueur. Le Botox peut agir de façon semblable sur les glandes salivaires chez les patients qui ont tendance à accumuler de la salive en raison d'une maladie ou d'un handicap. Enfin, les urologues peuvent injecter du Botox dans la vessie pour la relaxer lorsqu'elle se contracte de façon involontaire. C'était « Le Botox au-delà des rides », un texte de Catherine Anfield paru le 2 novembre 2025 dans la presse.
Étude. Donner rend notre cerveau heureux. Un texte de Mathieu Perrault, publié le 21 décembre 2025 dans la presse. Noël rime avec cadeau. La tradition du don remonte aux origines de l'humanité. Pas étonnant, puisque la générosité rend heureux, selon des recherches sur le cerveau menées par des psychologues et des neurologues. La simple idée de donner a un effet puissant sur le cerveau, explique Félix Tobler, neuropsychologue à l'Université de Zurich en Suisse, qui a publié la seule étude d'imagerie médicale portant sur le don, en 2017, dans la revue Nature Communications. L'impact sur le mécanisme neuronal de la récompense est encore plus grand que si on reçoit de l'argent. M. Tobler a annoncé à 50 cobayes qu'il recevrait 25 francs suisses, 43 dollars canadiens, chaque semaine pendant un mois. La moitié devait planifier de donner cette somme et l'autre moitié devait prévoir une dépense personnelle. Chaque semaine, on leur demandait quels étaient leurs plans précis. Pour le groupe du don, il fallait dire à qui ils allaient faire cadeau de 25 francs. Des lectures d'imagerie médicale de leur cerveau par résonance magnétique fonctionnelle, FMRI, étaient faites chaque semaine, donc 5 fois pendant la durée de l'étude. Chez les gens qui donnaient à autrui, il y avait plus de communication entre les régions du cerveau associées à la générosité et au bonheur. Philippe Tobler, neuropsychologue à l'Université de Zurich. Cette région du cerveau comporte beaucoup de neurones de la dopamine impliqués dans le sentiment de récompense et d'autres qui jouent un rôle dans la capacité à se mettre à la place d'autrui, à comprendre comment les autres se sentent. Laboratoire de l'entraide et du bonheur. Le bonheur lié au don est présent dès la petite enfance, selon les recherches de Lara Acknin, une psychologue de l'Université Simon Fraser, SFU, en Colombie-Britannique, qui étudie le don depuis 20 ans. Nous avons fait une étude démontrant que les gens dépensent davantage pour autrui que pour eux-mêmes, dit-elle. Ensuite, nous avons montré que la tendance à la générosité existe dès l'âge de 2 ans. Il semble que le don soit un mécanisme prosocial qui encourage la sociabilité parce qu'elle mène au bonheur. Madame Acknin fait le lien avec sa propre enfance. « Je me souviens que je passais des journées à rêvasser à ce que je pourrais faire de gentil pour les autres, confie-t-elle. Au fil des années, on s'est même rendu compte que le plaisir de donner à autrui ne dépend pas du fait qu'on connaît ou non la personne. Donner à un étranger semble aussi bénéfique pour notre bonheur. » Lara Acknin, psychologue et professeure de l'Université Simon Fraser. Son groupe à SFU s'appelle « Laboratoire de l'entraide et du bonheur ». Tania McGillivray, une autre psychologue de SFU, confirme l'universalité du bonheur dérivant d'un don. Elle étudie une société moins occidentalisée dans une île reculée de Vanuatu, dans le Pacifique. C'est une société où le concept de propriété est très différent de ce qu'il est au Canada ou en Occident, décrit-elle. Les enfants apprennent plus tard à distinguer ce qui est à eux et à autrui. Et même à l'âge adulte, il est possible de rentrer dans une maison et de prendre ce dont on a besoin. Alors, le don n'a pas le même sens que chez nous. L'existence de rituels de don dans de telles sociétés montre bien qu'il s'agit d'une expérience humaine primordiale, fondamentale pour la vie en société, poursuit Mme McGillivray. Ce rite du don dans les sociétés pré-industrielles a été souvent décrit par les anthropologues. Pour la psychologue, la persistance de cette tradition pourrait venir de rythmes servant à renforcer les liens sociaux remontant à l'aube de l'humanité. Quelles sont les prochaines étapes dans la recherche sur la neuropsychologie du don? Pour Philippe Tobler, il s'agit de déterminer si l'effet bénéfique de donner diminue quand on en est conscient. Si on donne en sachant que ça nous fait du bien, dans le but de se sentir mieux, est-ce que l'effet bénéfique du don est détruit? Philippe Tobler, neuropsychologue et professeur de l'Université de Zurich. Connecter, être aimé, être utile. Chris Barrington-Lake, un économiste de l'Université McGill qui a collaboré avec Lara Acknin pour certaines études sur le don, estime qu'on ne sait pas encore quel mécanisme neuropsychologique explique le mieux ce qui nous rend heureux quand on donne. Est-ce parce que ça nous connecte aux autres, donc que ça renforce notre sentiment de sociabilité? Ou alors que ça nous donne l'impression d'être aimable, donc d'être aimé par les autres? Ou bien ça nous fait sentir adéquat, utile, énumère-t-il. Madame Aknin veut, de son côté, étudier si les dons d'argent, les cadeaux ou le bénévolat ont le même effet bénéfique ou si certaines modalités de la générosité apportent davantage de bonheur. Et certains critiques des études sur le don estiment qu'on ne tient pas assez compte du sentiment de réciprocité. Est-ce qu'on donne parce qu'on s'attend à recevoir par la suite, particulièrement de la part des gens qu'on connaît? Il faudrait mieux délimiter l'impact de ce calcul, note-t-elle. Empathie ou calcul? Les travaux de Robert Valran, directeur du laboratoire de recherche sur le comportement social à l'UQAM, permettent déjà de répondre en partie à cette question. Les gens qui font quelque chose pour en retirer quelque chose par calcul ont des conséquences psychologiques moins positives, affirme-t-il. La tension entre les altruismes empathiques et stratégiques pourrait être inhérente au don, selon Sarah Palermo, une psychologue de l'Université de Turin qui étudie le cerveau charitable et est directrice scientifique de Philanthropolis, l'Institut national de philanthropie en Italie. Le don empathique nous fait sentir meilleur, nous donne l'impression que l'on comprend l'autre, alors que le don stratégique est lié à la réputation. Je crois que ces deux tendances sont toujours en équilibre dynamique. Sarah Palermo, psychologue, professeure de l'Université de Turin et directrice de l'Institut national de philanthropie italien. Si on transpose cette tension à la philanthropie, cela veut dire que la philanthropie d'entreprise ou des riches, ou alors le capitalisme social, qui tient compte des intérêts de la société et des employés, découle à la fois du désir d'être utile à la société et de celui d'être bien vu, d'avoir une bonne réputation, note Madame Palermo. Même s'il y a un côté stratégique à la philanthropie, cela n'annule pas les bienfaits du don. On fait rarement les choses pour une seule raison, conclut-elle. C'était, étude, Donner rend notre cerveau heureux, un texte de Mathieu Perrault, publié le 21 décembre 2025 dans La Presse.
Comment savoir si un animal est vieux? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 décembre 2025 dans La Presse. Une lectrice, Isabelle Renz, demande. Est-ce qu'on peut voir les traces de vieillissement du corps chez d'autres animaux que les humains? Oui, mais ce n'est pas aussi facile que pour les humains, selon trois spécialistes interviewés par La Presse. Chez certains mammifères, avec l'âge, le pelage devient moins fourni et, plus rarement, grisonne. On observe aussi une perte de masse musculaire, un ralentissement des mouvements et surtout des changements aux yeux. Les chiens et plusieurs autres espèces ont des cataractes en vieillissant, comme les humains, explique Patricia Pressot, directrice des soins animaliers à l'Écomuséum de Sainte-Anne-de-Bellevue. Quand on voit les cataractes, les yeux qui deviennent plus opaques, c'est un signe que l'animal devient plus vieux. Comme le chien n'a pas de rides, comme les humains, c'est souvent le signe le plus évident. Mais tous les animaux ne développent pas nécessairement des cataractes. Un animal domestique, même un oiseau, devient moins actif avec l'âge, dit Madame Pressot. Mais tous les animaux, même s'ils sont de la même espèce, n'ont pas toujours le même niveau d'énergie, précise-t-elle. Quand on a vécu avec un animal longtemps, on réalise qu'il y a un changement. Mais quand on voit un animal une fois, c'est moins évident. Nous avions un grand duc qui est mort à 36 ans. Et à la fin, il dormait beaucoup, le jour et la nuit. Le grisonnement du pelage, chez certaines races de chiens, est confirmé par deux chercheurs qui ont étudié le vieillissement chez les animaux, Brennan McKenzie, de l'Université Western, en Californie, et Suzanne Holtz, de l'Institut Leibniz, de recherche sur la faune à Berlin. Les chiens sont considérés comme de bons modèles du vieillissement chez l'humain parce qu'ils vivent avec nous et partagent notre environnement, souligne le vétérinaire californien. Parfois, leurs poils blanchissent et ils ont aussi de la perte musculaire, une obésité abdominale, de l'arthrite, comme nous. Une grande différence, par contre, c'est qu'ils n'ont pas de problèmes cardiovasculaires comme nous. Patricia Presso se souvient d'une moufette dont les poils noirs autour du museau sont devenus grisonnants au troisième âge. Le pelage porte aussi d'autres traces du vieillissement. Chez les petits mammifères comme la souris ou le rat, le pelage devient clairsemé, note Suzanne Holtz, spécialiste du rat-taupe, un animal de laboratoire. Autre signe d'âge avancé, la diminution de la masse musculaire, aussi appelée sarcopénie, est assez facile à voir pour le public non scientifique. Mais selon Mme Presso, le pelage masque souvent la sarcopénie. Des signes. Les vétérinaires ont évidemment d'autres moyens de déterminer l'âge. On peut voir les changements d'hormones dans les selles, dans les poils, indique Mme Presso. Il y a aussi des changements au niveau des dents. Les quidames curieux peuvent détecter sans formation vétérinaire le vieillissement de la dentition des chiens et des chats, ajoute-t-elle. On voit plus les gencives, comme pour les personnes âgées dont les dents se déchaussent, indique Mme Presso. Des études tentent actuellement de déterminer la quantité et le type d'exercice physique nécessaire pour éviter un vieillissement précoce chez le chien, rapporte le Dr McKenzie. Pour ceux qui s'intéressent à d'autres espèces, Mme Presso cite la tortue, le poisson et le kangourou. Jusqu'à 8 ans environ, les tortues ont des cercles concentriques qui apparaissent chaque année sur leur carapace. Même chose avec les poissons, de petites bandes apparaissent au niveau des écailles. Et le kangourou? On peut dire leur âge en fonction de la différence de longueur entre leurs pattes, précise la biologiste. En savoir plus, source, livre Guinness des records, 211 ans, âge de la baleine boréale la plus vieille connue. Il s'agit de l'espèce de mammifère qui vit le plus longtemps. C'était « Comment savoir si un animal est vieux ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 décembre 2025 dans la presse.
Normaliser le burn-out au communautaire, un échec collectif. Un texte d'Andrea Bacon-Terrien, publié le 15 décembre 2025 dans Le Devoir. Après 5 ans dans le milieu communautaire, je tire ma révérence à la suite d'un épuisement professionnel sévère. Et non, ce n'est pas normal. Servir la société ne devrait jamais se faire au prix de sa santé mentale. Mon expérience est le symptôme d'une culture sacrificielle qui banalise l'épuisement. Et cette banalisation est un échec collectif. Le one-man show et le burn-out facile, et le « ça a toujours été comme ça », nourrissent une résignation collective où l'épuisement est attendu et anticipé. Reconnaître ses limites dans le communautaire, c'est souvent s'exposer au jugement d'être trop fragile pour y rester. Pour ma part, je n'ai aucune honte à le dire, j'ai atteint ma limite, définitivement. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un de pas assez solide, cela fait de moi quelqu'un qui se respecte. Cette lettre ne vise aucun ancien employeur. Je dénonce une culture systémique qui écrase les travailleurs. J'ai la chance de pouvoir quitter le milieu communautaire et de prendre la parole. Mais beaucoup n'ont pas cette possibilité, faute de perspective hors du secteur. C'est la faute du gouvernement. Les journaux et les réseaux sociaux regorgent de critiques de militants, d'organismes et de travailleurs qui dénoncent le sous-financement chronique du communautaire, accusant le système public d'abandonner les travailleurs. C'est devenu un discours prémâché. Pourtant, peu osent le dire, Il est trop facile de rejeter la faute sur le gouvernement plutôt que de remettre en question nos propres pratiques et de briser le statu quo organisationnel ou même militant. Le manque de ressources ne peut servir d'alibi pour tolérer l'inacceptable. Rien ne justifie cette culture acceptée avec fatalisme. On ne peut servir la société si les travailleurs eux-mêmes ont perdu la passion de leur métier, épuisés, découragés et frustrés. Et aucun travailleur ne devrait sacrifier sa santé mentale au nom du bien commun. Ces constats ont un visage, une histoire. La mienne en est une illustration. Péricardite et stress, mauvaise recette. Durant les dernières années, une douleur thoracique fulgurante m'a menée à l'hôpital. Diagnostic, péricardite, causée par un stress prolongé et une fatigue accumulée. Mais le plus aberrant n'a pas été la maladie, mais ma réaction. Avant même d'appeler l'ambulance, j'ai voulu m'excuser de ne pas pouvoir respecter un échéancier administratif pour le dépôt d'une subvention, alors qu'on croyait à ce moment que je faisais un malaise cardiaque. Comme si ma santé passait après une date limite. Voilà ce que cette culture fait aux travailleurs, elle les pousse à s'oublier. Ce jour-là, j'ai compris que mon corps criait plus fort que ma volonté de tenir. Vie personnelle sacrifiée. Depuis 5 ans, j'ai manqué à mes rôles de conjoint, de proche aidante, de fille, de sœur, d'amie. J'ai délaissé ma famille, raté des fêtes, perdu des moments irremplaçables. J'ai laissé filer des souvenirs que je ne pourrai jamais recréer, comme des visites manquées à mon grand-père atteint d'Alzheimer. Aujourd'hui, il ne me reconnaît plus. Le communautaire m'a volé des instants de vie qui ne reviendront jamais. Et chaque absence au travail portait la marque de la culpabilité, comme si servir une cause justifiait de délaisser mes proches. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de centaines de personnes qui sacrifient leur vie et leur santé pour servir la société. On nous répète qu'il faut se dévouer corps et âme, comme si le bien commun justifiait de perdre sa santé mentale et sa vie personnelle. Combien de personnes au communautaire sacrifient leur vie personnelle pour leur travail ? Combien de parents manquent des événements importants avec leurs enfants ? Combien de proches aidants ratent des rendez-vous médicaux cruciaux ou des visites à un proche malade ? Il est temps de briser ce cycle et reconnaître que le burn-out au communautaire n'est pas une fatalité. Le point de rupture. Un matin de novembre, j'appelle ma conjointe les larmes aux yeux. Je lui dis simplement « C'est fini, je n'y arrive plus ». Elle comprend. Après un silence et une grande inspiration, elle me répond « Ok, ça va aller, on va s'en sortir ». Après 5 ans de dévotion, je quittais le communautaire. Et cette fois, je savais que je ne reviendrais pas. Le communautaire est vital pour notre société. Mais il ne peut continuer à fonctionner en brisant ceux qui le portent. Alors, je vous le demande, combien de travailleurs devront encore s'effondrer avant que le milieu change ses pratiques? C'était « Normaliser le burn-out au communautaire, un échec collectif ». Un texte d'Andrea Beckenterien, publié le 15 décembre 2025 dans Le Devoir.